Chers amis, bonjour. C'est une joie pour moi de vous présenter un homme attachant, particulièrement passionné. Je dirais un homme atypique. Il est né dans une famille où se pratiquait l'occultisme, avec une mère qui était cartomancienne, guérisseuse, radiesthésiste, voyante, spirite et magicienne. Et lui était surnommé le fils de la sorcière. Sa conversion fut une véritable révolution dans sa famille, mais aussi chez lui, au plus profond de son cœur, avec une passion brûlante, le salut des âmes. Pasteur, il prit conscience que son ministère s'orientait vers l'évangélisation, et de là est née l'association Espoir et Délivrance. Je vous présente Franck Alexandre. Bonjour Franck.
Didier, bonjour.
Ah, c'est une joie de pouvoir partager avec toi quelques minutes d'interview. Merci déjà d'avoir accordé ces moments. Temps précieux, sachant que tu as pas mal de travail, que tu es en train de préparer la campagne d'évangélisation à l'église Paris-Bastille. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir, partager toutes ces années. Je pensais à une chose extraordinaire, c'est que pendant que je préparais cette interview, je réfléchissais sur ces années passées, tant d'années parcourues, où tu as vraiment expérimenté la foi, où tu as vu le miraculeux de Dieu, le prodigieux de Dieu. Est-ce qu'il y a 10 ans de cela, tu aurais pensé qu'aujourd'hui, tu en serais là où tu en es ?
Non, c'est clair qu'il y a 10 ans, je ne pouvais pas me projeter, j'irais dans une telle aventure. Parce que si je pouvais utiliser un mot pour décrire ce que j'ai vécu depuis la création officielle de l'association Espoir et Délivrance, c'est le mot tourbillon.
Ouais.
J'étais pris dans un tourbillon. J'ai été pratiquement mis en orbite autour de la Terre pour aller proclamer l'Évangile. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce texte de la parole où il dit que la bonne nouvelle, la parole de Dieu, elle parcourt la Terre, elle court le monde. Et c'est vrai que le Seigneur m'a propulsé dans l'évangélisation. Alors c'est rare pour un francophone, mais ça a été, c'est une super aventure.
Incroyable. Alors tu es marié à Liliana et tu es aussi papa, je suppose ?
Et oui, nous avons 2 enfants, une fille Johanna et un garçon Jordan.
D'accord, et Jordan, alors, va suivre les traces de son papa ?
Alors Jordan, il a vraiment sa personnalité. Il a son caractère, vraiment. Mais je vois déjà chez lui le désir d'être utile à l'œuvre du Seigneur. Mmh. Et depuis cet été, nous avons eu un besoin pour mettre sur pied un site internet et tout de suite il s'est proposé de le faire.
D'accord.
Il a fait des études dans ce domaine en université et tout de suite il a pris à cœur le besoin, il a voulu y répondre et puis il a retroussé les manches et il nous a permis de mettre sur pied un site d'évangélisation. Alors ça m'a touché. Ça fait du bien au cœur d'un papa de voir le fiston commencer à prendre à cœur le travail de Dieu.
Ouais. Et Liliana, c'est l'épouse cachée de l'évangéliste ?
Mon épouse, pendant de longues années, elle a été dans l'ombre. Mm-hmm. Parce que je prenais mes valises, je partais évangéliser. Puis elle travaillait, ce qui permettait à notre foyer de tourner sur le plan économique.
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, elle ne me suit pas plus pour l'instant parce que les enfants ont encore besoin de la présence de la maman.
Oui, bien sûr.
Mais elle est tout de même à plein temps dans le ministère.
D'accord.
Elle travaille au sein de l'association Espoir et Délivrance et de l'association Gospel Vision.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait courir Franck Alexandre aujourd'hui ?
Alors, celui qui me fait courir, c'est Dieu. Parce que pour relever de tels défis, pour partir dans de telles aventures d'évangélisation sur les 5 continents. Je dois le dire, dans certains cas, les campagnes ont été, très chaudes,
ouais,
parfois même très risquées. Nous avons évangélisé dans des zones où l'Église est parfois persécutée. Eh bien, il faut l'appel de Dieu et il faut l'assistance du Saint-Esprit. Alors, celui qui me fait courir, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Et en même temps, ce qui me fait courir aussi, c'est la cause, la grande cause, celle des âmes perdues. Parce qu'il y a urgence, le monde a besoin d'être sauvé, et aujourd'hui, il faut répondre à l'appel de la grande mission.
Oui, bien sûr. Alors, tu as créé une association qui s'appelle Espoir et Délivrance.
Exactement.
Deux mots forts. Est-ce
oui.
que ces deux mots-là traduisent ta propre expérience de conversion ?
Eh bien, je dirais que ces deux mots sont comme les deux rames d'un bateau qui m'ont fait avancer dans la foi.
Ouais.
J'ai connu le désespoir et j'ai connu l'esclavage du fait de mon arrière-plan, hein, comme tu le sais, Didier, avec cette maman qui trafiquait dans l'occultisme. Moi-même, j'étais visité souvent par les démons. J'en suis arrivé à un point où, à l'âge de 17 ans et demi, je voulais me jeter par la fenêtre.
Ouais.
C'est quand même dramatique qu'à 17 ans et demi, on soit sur le bord d'une fenêtre et qu'on n'ait que de seul avenir que de se jeter dans le vide. Et eh bien, Dieu est arrivé à ce moment-là, comme quoi il n'y a pas de cause désespérée. Et j'ai découvert en Jésus-Christ l'espoir et la délivrance. Alors j'ai serré fort ces deux mots. Et en 97, lorsqu'on a voulu créer ce ministère, eh bien, on y a mis tout de suite ces deux mots.
Ouais, alors, au travers de cette association, tu parviens maintenant à mener des défis d'évangélisation dans plusieurs pays. Comment tu t'y prends ?
Eh bien, on travaille avec les églises locales. Et depuis le départ, dans mon travail d'itinérance, c'est comme cela que ça s'est mis sur pied. Ma première mission date de 1991. Et puis, à partir de là, donc je suis sorti des limites, des frontières de notre pays. Ouais. Et dans le pays d'à côté, on en a entendu parler. Ensuite, on m'a invité. D'accord. Et c'est toujours les églises qui m'invitent. Ensuite, on a eu l'opportunité d'avoir des coordinateurs continentaux qui m'ont représenté sur les différents continents et qui, à chaque fois qu'un pays me demandait pour une mission, eh bien, ces coordinateurs faisaient le travail d'aller rencontrer les conventions pastorales, les alliances évangéliques, et ils ont travaillé à la mise sur pied des différentes campagnes.
D'accord, ok. Alors, tu as particulièrement axé tes efforts dans un coin du monde que l'on appelle la fenêtre 10-40. Raconte-nous un petit peu pourquoi tu as axé ces campagnes, ces temps d'évangélisation dans ce coin du monde.
Eh bien, il y a eu, c'est vrai que l'Église a été beaucoup sollicitée et puis aussi interpellée par des grandes organisations missionnaires. Il y a quelques années, on entendait beaucoup parler de la fenêtre des 10-40 et de l'urgence d'aller évangéliser les pays où l'on trouve principalement, je dirais, l'islam. Oui. L'islam. Il y a bien sûr le fétichisme, l'animisme, on y trouve aussi un peu l'hindouisme et le bouddhisme, mais principalement des pays qui sont fortement imprégnés de l'islam. D'accord. Donc les organisations missionnaires ont interpellé les églises et des efforts ont été concentrés vers ces pays. Alors on a eu l'occasion de faire des campagnes au Pakistan et dans d'autres régions. Nous sommes allés aussi au Bhoutan, en Inde, au Sri Lanka. Et nous avons tenu des campagnes de masse dans cette région du globe.
D'accord. Et aujourd'hui, tu t'orientes davantage vers l'Europe, particulièrement vers la France ?
Eh bien, vers la France, en effet, parce que je dirais que l'islam est une réalité maintenant en France. Oui. Une réalité non seulement médiatique, mais dans nos quartiers. Et Paris, il sait très bien, l'islam est présent, les mosquées s'implantent, se multiplient. Et il y a, je pense, urgence concernant l'évangélisation de la France et de l'Europe. Alors depuis quelques années, on a commencé à diriger le gouvernail en direction de la France et de l'Europe.
D'accord. Justement, en parlant de l'islam, que penses-tu de la montée de l'islam en France ? Est-elle devenue une terre de mission pour cela ? Est-ce que c'est un défi pour les chrétiens ?
Tout à fait. Je pense que nous sommes dans un monde qui est en mission. Regardons autour de nous, tout le monde est en mission.
Oui, bien sûr.
Que ce soit les traders dans les banques, ils sont en mission pour gagner de l'argent. Oui. Que ce soit, les associations humanitaires, ils veulent relever le défi de la misère dans le monde. Les sociétés commerciales qui veulent conquérir les marchés, les religions et les sectes qui veulent faire des adeptes. Le monde est missionnaire, le monde est en mission.
Et, oui.
Et qu'en est-il de l'Église ? L'apôtre Paul nous dit qu'elle est l'appui et la colonne de la vérité. Alors, elle est souvent la colonne. Oui. On la remarque, on sait qu'elle existe. Mais est-elle toujours l'appui ? Et je crois que c'est le défi qui nous est lancé. Je pense que la montée de l'islam en Europe doit interpeller l'Église. Il est important que l'Église ouvre ses yeux, prenne conscience de cette montée, j'ajouterais celle aussi de l'occultisme, et que l'Église reprenne le chemin de l'évangélisation, de la même manière que les organisations missionnaires devraient faire tous leurs efforts pour envoyer des missionnaires en France et en Europe. Il faut réévangéliser maintenant la France et l'Europe. C'est une urgence. Et
oui. Alors, dans toutes ces campagnes, quel est l'événement qui t'a le plus marqué ?
Eh bien, certainement que l'un des événements qui m'a vraiment touché, il y en a beaucoup, mais peut-être est-ce celui du Sri Lanka, lorsque nous sommes arrivés dans la capitale religieuse du monde bouddhiste, la ville de Kandy. Les pluies torrentielles sont venues sur la ville. On avait recouvert la ville avec des milliers de posters et je pouvais voir de mes yeux les posters qui se détachaient des murs, la publicité qui tombait dans les flaques d'eau et les villageois qui n'allaient pas se déplacer pour la mission. Et la mission allait commencer le lendemain. Donc c'était la catastrophe. J'ai pensé qu'il fallait remonter dans l'avion et puis rentrer en France immédiatement, que c'était terminé pour cette campagne. Mais avant cela, nous nous sommes réunis sous les tonnelles d'un petit stade à quelques centaines de mètres du lieu d'évangélisation, et nous avons prié pendant plusieurs heures, nous avons intercédé, et puis vers 22 heures, une sœur a commencé à prophétiser et elle a annoncé, eh bien, il ne pleuvra plus une seule goutte d'eau sur la ville de Kandy du premier jour jusqu'au dernier jour de cette campagne d'évangélisation.
Incroyable.
Surprenant, surprenant. Ah, mais oui. J'ai saisi cette parole par la foi.
Oui.
Et puis, je suis retourné à l'hôtel. Le matin, au réveil, eh bien, il faisait soleil sur la ville, mais c'était normal parce que les pluies torrentielles tombaient tous les soirs. Et lorsqu'on m'a emmené sur le terrain d'évangélisation, vers 17h, eh bien, j'ai pu apercevoir eh bien, des nuages sombres qui venaient en direction de la ville. Oui. Et là, j'ai dit, c'est la catastrophe, c'est terminé. Et puis, je suis sur le point de descendre de la voiture, les musiciens font les réglages, je les aperçois. Et quand j'ouvre la porte, je vois une femme qui tourne sur elle-même par terre en poussant des hurlements et des démons sortent d'elle. C'est une villageoise. Elle était là sur le terrain et elle est délivrée alors que rien n'a encore commencé. Et tout à coup, le Saint-Esprit me parle. Et cette parole qui m'est donnée du Seigneur, eh bien, me communique ce message. Le Seigneur me dit, c'est une voix intérieure qui est forte. Et le Seigneur me dit, Franck, tu vois, j'ai autorité sur la terre, eh bien, de la même manière, j'ai autorité dans le ciel sur les éléments météo.
C'est incroyable. Ouais.
Alors, amen. Je crois. Et ce soir-là, je monte sur l'estrade, je prêche, et nous allons assister au miracle. Toute mon équipe va être surprise de voir les nuages contourner la ville. Ouais. Et pendant une semaine, il ne pleuvra pas une seule goutte de pluie sur la ville de Kandy.
C'est incroyable.
J'ai vu des enfants muets parler, des sourds entendre, des lépreux purifiés. Nous avons été aussi persécutés par une cinquantaine de prêtres bouddhistes, mais le Seigneur nous a permis de nous en sortir. Et le dernier jour, au moment de reprendre l'avion, les pluies torrentielles sont tombées à nouveau sur la ville, comme Dieu l'avait annoncé.
Amen, alléluia. Alors, dans tout ça, quels sont tes projets aujourd'hui?
Alors, mes projets aujourd'hui, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on concentre maintenant, notre ministère concentre davantage ses activités sur la France et sur l'Europe. Depuis 5 ans, nous avons commencé à réaliser une structure mobile d'évangélisation, Gospel Vision. Il est possible de voir tout cela, tout ce développement de ce merveilleux projet sur le site gospelvisiontroops.org, où là, on peut voir le camion en action. D'accord. Donc, nous sommes allés en Ukraine, nous sommes allés aussi en Espagne, nous sommes allés en Belgique, en Allemagne. Et l'été dernier, avec une vingtaine de jeunes, les Gospel Vision Troops, eh bien, nous sommes allés jusqu'en Pologne et en Roumanie.
D'accord.
7000 km d'un Gospel Vision Tour incroyable. Nous avons distribué des dizaines de milliers de brochures, vu des milliers de personnes devant ce camion.
Ouais.
C'est une plateforme où on fait converger les ministères. Donc, on invite des ministères qui viennent prêcher dessus.
D'accord.
Et puis, c'est une plateforme qui permet l'émergence des ministères.
Ouais,
parce que des jeunes évangélistes en herbe nous rejoignent et ils apprennent l'évangélisation de rue, à prêcher dehors, à distribuer de la littérature chrétienne. Alors, c'est une super aventure. Et l'été prochain, eh bien, c'est le Gospel Vision Tour 2011. Et là, nous allons traverser 6 pays ou 7 pays cette fois-ci, non plus avec une vingtaine de jeunes, mais au moins 60 jeunes.
Mm-hmm.
Et on envisage de distribuer pas loin de 100 000 brochures.
Ah ouais, bah justement, je voudrais rebondir par rapport à la jeunesse. Quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune qui voudrait évangéliser ou faire comme toi?
Alors, je ne vais pas donner un conseil extraordinaire. Je vais peut-être reprendre simplement ce que le célèbre évangéliste Billy Graham m'a communiqué comme conseil il y a des années, lorsque je lui ai écrit pour lui poser la question « Comment devient-on évangéliste ?» Alors, j'ai reçu une lettre de sa part dans laquelle il y avait quelques conseils tout simples. Premièrement, il m'a dit « Commence localement.
Mmh. »
Et il a comparé ce démarrage à une petite pierre qui tombe dans le lac et qui va commencer à décrire des cercles de plus en plus importants. Et je crois que pour un jeune qui veut servir, qui veut commencer, il est important qu'il puisse avoir un bon témoignage localement et que les chrétiens puissent rendre un bon témoignage de lui, qu'il puisse être accompagné par son pasteur ou par une équipe pastorale et qu'on puisse permettre le développement de ce ministère. Et à mesure qu'il va s'enraciner dans le Seigneur, connaître de plus en plus le Seigneur et avoir une relation intime et profonde avec lui, eh bien, son ministère va rayonner de plus en plus. Il n'aura même pas besoin de demander à ce qu'on l'invite. On l'invitera, parce que c'est Dieu qui recommande un homme, c'est Dieu qui élève un homme. Et comme le disait Donald G., un ministère ne consiste pas dans un nom, mais en puissance.
Mm-hmm.
Alors ce n'est pas le titre ou la plaquette ou le badge qui va faire le ministère, mais c'est le Seigneur qui donne des dons. Et quand Dieu donne une énergie, quand Dieu donne un don spirituel, quand il donne sa puissance, eh bien la personne est chassée dans la moisson. Donc Dieu confirme le don qu'il donne à quelqu'un.
Ouais, bah écoute Franck, je te remercie pour ces quelques paroles et ce partage que nous avons eu au travers de cette interview.
Merci à toi.
Je vais te laisser avec nos visiteurs, puisque tu avais à cœur de leur parler, de t'adresser directement à eux. Que Dieu te bénisse.
Eh bien, j'aimerais dire à tous ceux qui visitent ce merveilleux site internet, eh bien, j'aimerais leur dire que Dieu les aime. Et je baserai simplement ces dernières paroles sur ce verset qui a marqué profondément la vie des évangélistes, le message de l'évangéliste, et qui a marqué une multitude d'âmes qui ont fait la paix avec Dieu. C'est ce verset de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mes amis, dans ce simple verset, il y a le croquis d'une prédication et il y a le secret d'une vie abondante et nouvelle. Oui, car Dieu, oui, au commencement, Dieu créa. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas le fruit du hasard. Dieu vous a créé. Vous êtes une créature de Dieu, vous êtes le dessein de Dieu, vous êtes le plan de Dieu. Peut-être quelqu'un vous a dit « t'es une erreur ». Non, vous n'êtes pas une erreur. Vous existez parce que Dieu a voulu que vous existiez. Vous êtes le merveilleux projet de Dieu. Dieu existe. Comme le dit souvent Billy Graham au journaliste qui l'interroge concernant l'existence de Dieu et qui l'interroge souvent avec une certaine ironie, il dit « Dieu existe, je lui ai parlé ce matin ». Oui, Dieu existe. Il vous a créé et il vous a créé pour un but, le connaître. Car Dieu a tant aimé. Oui, Dieu vous aime. Dieu est amour. C'est vraiment la nature de Dieu. Il est amour et il vous aime d'un amour inconditionnel. Peut-être vous vous sentez indigne, vous dites « mais je suis à des kilomètres d'un tel Dieu ». Ma vie est un fiasco, ma vie est souillée, j'ai commis des choses horribles que je n'oserais jamais partager à quelqu'un. Eh bien, Dieu vous aime malgré vos fautes. Oui, car Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Oui, Dieu nous donne une preuve de son amour. La Bible dit d'ailleurs, Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Jésus, c'est la preuve. Vous cherchez une preuve de l'existence de Dieu ? Eh bien, regardez au Christ, regardez à ce que Jésus a fait, c'est la plus belle des preuves. Dieu nous a donné une preuve en chair et en os. Il a envoyé son Fils Jésus, et Jésus est venu sur la terre pour donner sa vie sur la croix. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque, eh bien c'est vous, c'est moi. Le salut, il est universel. Dieu a tant aimé le monde, mais il a donné son Fils pour quiconque. Le salut est universel, mais son appel est personnel. Dieu s'adresse à vous. Oui, c'est à vous de le recevoir, Jésus. Afin que quiconque croire, c'est quoi ? Eh bien, croire, ce n'est pas un grain de folie qui nous arrive tout à coup, comme une expérience bizarre. Oh, il a la foi. Un peu, vous savez, comme une maladie qu'on attrape. Il a la foi, lui. Non, nous sommes tous capables de croire, car la Bible dit que Dieu a départi à chacun, à tous, une mesure de foi, afin que quiconque croit, alors croyez, croire c'est prendre, croire c'est saisir, croire c'est s'approprier, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a devant vous, eh bien, deux destinations éternelles, deux destinées possibles. Vous êtes au carrefour de la croix, là où Jésus est mort. Et en tant qu'évangéliste, je me tiens sur le pas de la porte du royaume de Dieu pour vous dire, n'allez pas en enfer, mais allez au ciel. L'enfer est un lieu de tourments éternels. Et je vous en supplie, n'y allez pas. Et je vous appelle à aller au ciel, parce que autant l'enfer existe, et il est réel, et j'ai connu l'enfer intérieur, et je ne voudrais jamais aller en enfer, mais autant le ciel aussi est une réalité. Alors ne pensez surtout pas que l'enfer est une boîte de nuit où le diable et les démons dansent avec les violeurs et les grands criminels de ce monde. Non, en enfer, le diable et les démons seront tourmentés. C'est un lieu de tourment éternel. Mais le ciel, c'est un lieu de félicité. C'est aussi un lieu de pureté. Et tel que nous sommes sans Jésus, nous ne pouvons pas entrer au ciel. C'est pourquoi je vous invite à recevoir Jésus afin d'être purifié de vos péchés et d'aller au ciel. Nous sommes pécheurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons transgressé la loi de Dieu. Le péché, nous dit la Bible, c'est la transgression de la loi. Alors, nous avons transgressé cette loi, les 10 commandements, qui disent « tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point adultère ». Nous avons tous commis ces 3 péchés, oui. Qui n'a jamais menti ? Qui n'a jamais volé ? Une dame me disait récemment « moi, je ne suis pas une voleuse ». « Oh, des bricoles, pasteur, un sac de bonbons à ma petite sœur quand j'étais petite ». Mais comment appelle-t-on quelqu'un qui vole ? Un voleur. Comment appelle-t-on quelqu'un qui ment ? Un menteur. Et nous sommes adultères. Vous direz peut-être, non, pasteur, je suis fidèle à ma femme depuis 40 ans, vous racontez des histoires. Mais savez-vous que Jésus a dit, il suffit de regarder une femme avec de la convoitise pour commettre un adultère dans son cœur. Et j'ajoute, il suffit aussi à une femme de regarder un homme avec convoitise pour commettre aussi un adultère. Nous sommes donc voleurs, menteurs, adultères, et la Bible dit que les voleurs, les menteurs et les adultères n'hériteront pas du royaume de Dieu. Si nous devions être jugés maintenant sur la base des 10 commandements, à votre avis, quel serait le verdict? Coupable ou innocent? Oui, vous avez raison. Nous serions coupables. Quelqu'un qui se trouve devant un juge et qui est coupable, de quoi a-t-il le plus besoin? De la chance du pasteur Franck Alexandre ou d'un bon avocat? Il a besoin d'un bon avocat. Eh bien, devant Dieu, nous qui sommes coupables, nous avons besoin d'un bon avocat, et cet avocat s'appelle Jésus. Alors recevez Jésus. Jésus, c'est votre sauveur. Lui seul pourra vous permettre de rencontrer Dieu, et par sa justice, il vous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors je vous invite maintenant à prier, pourquoi pas, vous pouvez le recevoir tout de suite. Là où vous êtes, tournez-vous vers le Seigneur, invitez Jésus simplement dans votre vie. Répétez cette prière. Père céleste, je viens à toi, tel que je suis, avec mes fautes et mes transgressions. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais, je suis coupable devant Dieu. Mais je crois maintenant, Jésus est mort sur la croix et il a pris ma condamnation. Je reçois Jésus maintenant dans ma vie. Je le reçois comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. À partir de cet instant, je décide de marcher sur le chemin d'une vie nouvelle et je vais conformer ma vie aux enseignements de la Bible, la parole de Dieu. Je reçois en cet instant Jésus, le pardon de mes péchés et une vie abondante. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous conduise sur le chemin de cette vie merveilleuse. Vous marchez maintenant sur le chemin d'une glorieuse destinée.